Ma préférence, Tiphaine Le Menn. Bonjour. Ma préférence, votre agenda culturel d'Occitanie. Le dimanche 28 novembre se tenait le Salon du Livre à l'Hostal d'Occitanie. À cette occasion, je vous propose de découvrir quelques écrivains ainsi que leurs œuvres. C'est ma préférence et c'est parti! En compagnie de Gilles Vincent, auteur du livre Les poupées de Nijar, pardon pour ma prononciation.
Allez, Nijar.
Est-ce que vous pourriez nous présenter en deux mots ce nouvel livre et publié aux éditions Au Diable Robert?
Alors, c'est un grand roman espagnol. C'est à la fois un roman, d'ailleurs, l'éditrice l'a étiqueté, l'a classé en tant que roman, mais c'est aussi un polar. D'ailleurs, c'est un livre, quand il reçoit une récompense, une fois sur deux, c'est un prix du roman. Où c'est un prix du polar parce qu'on est à la croisée de deux genres. Et donc c'est un roman qui nous plonge au cœur de l'Espagne d'aujourd'hui, avec un sujet d'actualité qui est le scandale à la fois écologique et humanitaire en espagnol on dit el mar de plástico, la mer de plastique, c'est-à-dire ces serres où travaillent 30 000 Africains dans des conditions invraisemblables. Et en même temps, tout ça est balayé par sans doute le sujet le plus sombre du franquisme, qui remonte à la surface 70 ans plus tard et qui emporte tout sur son passage. Donc c'est à la fois, je dirais que c'est un roman à la croisée des chagrins d'hier et des souffrances d'aujourd'hui. Voilà.
Alors qu'est-ce que vous entendez par chagrin d'hier ?
Chagrin, c'est un pays qui a subi 40 ans de dictature et qui n'a pas pu faire son devoir de mémoire. Et il y a tellement de choses tues, tellement de choses qui sont écrasées par le silence que les chagrins ont du mal à s'essorer.
Et combien de temps ça vous a pris ?
Une année.
Une année ?
Ouais, moi il me faut un an pour écrire un bouquin, un roman.
Et quelles sont vos sources d'inspiration ? Quelles ont été vos sources d'inspiration ?
Mais je me suis perdu parce que je suis tombé en panne de GPS en Espagne et je suis atterri dans les serres. Et à partir de là, ce scandale m'a donné l'envie d'en faire un sujet de loin. Voilà. Et mon amour de l'Espagne ou mon intérêt pour l'Espagne me fait souvent mélanger, mais c'est souvent le cas dans d'autres romans, le passé et le présent.
Le passé et le présent, voilà. Oui, c'est un petit peu ce que vous faites aussi
dans
avec
Peine Maximum. Ou dans Noir Vézère. Ouais.
Et alors, pourquoi est-ce que vous avez changé vos autres livres? Vous les éditez du Noir au Sud de Kern. Là, vous les avez édités au Diable Revers. Pourquoi ce changement?
Mais c'est un peu comme il m'arrive de faire mes courses chez Lidl et parfois chez Carrefour. C'est pareil. Je travaille par amitié avec les éditions Kern pour le directeur Jean-Luc Hélébel. Et je travaille par affinité profonde avec Le Diable Vauvert, une maison d'édition avec laquelle j'adore travailler et qui offre à ses auteurs une couverture nationale plus importante. Voilà.
D'accord. Et quel est votre intérêt à participer à des salons comme celui-ci, des salons?
Alors, il y a double intérêt. Le premier intérêt, il est assez égoïste, c'est de retrouver les copains, les potes, les amis, écrivains, écrivaines, auteurs, autrices. Et puis le deuxième intérêt, c'est de rencontrer les lecteurs, des nouveaux lecteurs, de partager notre passion, de partager notre travail. Voilà. Et puis de sortir de la bulle,
oui.
La bulle de celui qui écrit dans son bureau tout le temps. Voilà. Ouais. Il faut sortir de sa bulle et la meilleure façon de sortir de sa bulle, c'est de rencontrer les autres.
Merci en tout cas.
Et avec grand plaisir.
J'ai accepté de répondre.
Mais je vous en prie, Madame Nijar.
Un petit mot pour terminer ?
Un petit mot pour terminer, mon prochain roman.
Ah oui, le
Au Diable
Vauvert.
Au Diable Vauvert, qui sort le 10 février. Ça s'appelle Usual Victims, en hommage au film Usual Suspects.
Ça va parler de quoi?
C'est difficile d'en parler, je préfère laisser la surprise. Ouais.
Ok,
voilà.
Merci beaucoup.
Merci
et
beaucoup.
Nous, on se retrouve avec un prochain auteur.
À bientôt.
Je suis Cognac, qui a sorti la suite de L'ombre des derniers cathares, Dieu, le diable et le boucher. Bonjour Alain.
Bonjour.
Alors est-ce que vous pouvez nous présenter en deux mots cette série ?
Alors, vous savez, donc le premier tome, L'ombre des derniers cathares, c'est un. Prenez dans cette histoire, donc c'est un polar, prenez dans cette histoire un vieux policier. Un policier qui était fatigué par sa carrière, fatigué par ses ennuis personnels, et qui décide de tirer un trait sur tout ça, de se retirer à la retraite dans son appartement et ne plus voir personne, jusqu'au jour où un coup de téléphone va le réveiller de sa léthargie. Coup de téléphone d'un notaire toulousain qui va lui demander de venir à Toulouse signer un testament. Il faut savoir, on le découvre après, qu'il ne quittera plus jamais Toulouse. Il vient en Grognan, mais ne quittera plus jamais Toulouse. Il s'agira, dans ce testament, donc un ancien collègue de collège lui lègue ses biens et lui demande de poursuivre ce que lui n'a pas pu terminer. En l'occurrence, une quête. Voilà, une quête historique. 8 siècles après, en fait, c'est très compliqué. Il s'agira de corriger une injustice crasse de l'histoire, sauf qu'en face, il y a des gens qui sont armés, d'autres extrémistes, qui ne veulent surtout pas que cette quête arrive à son terme. Et les fusils sortiront, mais la poudre parlera avant les hommes. Et donc, voilà le contexte du tome 1. Le tome 2, Dieu, le diable et le boucher, c'est la suite. C'est les vaincus décident de se venger et donc d'éradiquer ceux qui les ont fait perdre parce qu'ils ont des croyances et souhaitent les mener jusqu'au bout. Voilà un petit peu en quelques mots.
Du coup, on ne sait pas qui sont les vaincus, on laisse la surprise.
Je laisse au lecteur la surprise de le découvrir.
Et quelles ont été votre ressources d'inspiration ?
Alors, je suis très fan de Dan Brown, je suis très fan de ma région et je suis très inspiré par les cathares. Parce que j'ai eu une prof d'histoire à l'époque, prof d'histoire de géographie, qui aimait beaucoup les cathares et qui nous a fait partager sa passion des cathares. Et je trouvais incroyable que ces rites cathares, la connaissance des cathares, dans l'inconscient collectif, aient pu perdurer pendant des siècles. Et j'ai dit un jour, ce serait bien de les remettre en scène et de faire en sorte que des cathares, c'est ce qui se passe dans le tome 1, perpétuent en secret les rites cathares jusqu'à notre époque. Bon, dans l'ombre, évidemment, puisque le Vatican n'accepte pas ce type de croyance, ils ont été excommuniés, les cathares. Et puis finalement, qu'ils soient obligés d'apparaître sur la scène d'un crime et apporter témoignage de ce qu'ils ont vu. Je trouvais sympa de leur redonner un petit espace sur la scène.
Un petit espace, oui, c'est une bonne idée, parce que finalement, on ne sait pas si...
Et alors, les gens apprécient bien, visiblement, l'idée de faire ressurgir des cathares, parce que je pense que dans l'esprit, à plus forte raison du sud-ouest de la France, les cathares ne sont pas morts, hein. Ils sont toujours là, hein, dans l'esprit des gens.
Et oui, même s'ils n'existent peut-être plus aujourd'hui.
Ils n'existent plus réellement.
On ne sait jamais, peut-être qu'il en reste un ou deux qui se cachent.
Dans l'histoire, oui. Dans mes romans, ouais. Oui. Dans la réalité, j'en doute un peu, mais c'est mon imaginaire qui a produit tout ça.
Et est-ce qu'il y a une difficulté à trouver une maison d'édition ?
Mais c'est toujours très compliqué.
Ouais.
C'est compliqué dans le sens où, économiquement, les maisons d'édition ont besoin de choisir comme il faut les candidats qu'ils vont propulser sur la scène pour ne pas faire un échec. Ensuite, il faut que le thème accroche aussi avec la ligne éditoriale de la maison. Et alors oui, c'est très difficile. Mais moi, j'ai eu la chance de trouver un éditeur, les éditions Kern, à Morlas, à côté de Pau, qui ont bien voulu croire en ce livre et au deuxième. Et donc, j'ai pu, grâce à ça, être édité. Mais sinon, c'est très, très compliqué. Je n'ai pas de document officiel, mais je crois qu'on est de l'ordre de 4 à 5 % de gens qui envoient un manuscrit et qui sont finalement édités. Donc oui, c'est une chance d'avoir un éditeur.
C'est une chance. Là,
surtout quand ça se passe bien. Édition Kern.
Et vous êtes du Noir au Sud.
Voilà, dans la collection du Noir au Sud. Ouais. Dont le directeur de publication se trouve là-bas avec le chapeau.
Ah,
voilà.
On va revenir un petit peu sur votre roman. Combien de temps ça vous a pris de l'écrire ?
Alors, j'ai toujours eu envie d'écrire. Depuis l'âge de 20 ans, j'ai eu envie d'écrire. Mais je n'ai jamais osé. Parce que quand je rentre dans une librairie et que je vois les noms prestigieux qu'il y a sur les rayons, je me dis, mais j'ai pas ma place, moi, au milieu de tout ça. Ben, c'est un complexe, en fait.
Oui.
Hein. Et puis, arriver, c'est un âge très dur pour les hommes, 40 ans. À 40 ans, j'ai dit, j'en ai marre d'avoir peur. Je vais essayer. Donc, mon épouse m'a offert un ordinateur portable. Elle m'a dit, tu commences, mais tu finis. Et c'est ce qui s'est produit. Alors j'ai mis 10 ans.
Ah oui.
Parce que je suis passé par toutes les phases. L'euphorie, le découragement, l'arrêt du manuscrit, la volonté de le détruire, et puis non, l'envie de recommencer, puis ensuite la présentation aux maisons d'édition, et ça m'a pris 10 ans. Je voyais ça comme un projet en espérant que ça puisse se faire, mais c'était hypothétique dans mon esprit. Et puis, la sauce a pris avec Kern. Et donc le tome 1 a pris 10 ans pour se retrouver dans les bacs. Le tome 2, 18 mois. c'est beaucoup plus rapide.
Ah oui, c'était
et parce qu'il y a le métier, et puis parce qu'on est sur des rails, et c'est un petit peu plus simple.
Petite dernière question,
oui.
Quel intérêt vous avez à participer à des salons comme celui-ci?
Alors, deux intérêts majeurs. Le premier, c'est qu'on ne peut pas rester chez soi. L'écriture, c'est un exercice solitaire. Mais c'est comme un vendeur qui aurait un produit à vendre, mais qui reste chez lui, ne le présente pas au public. Faire, c'est bien, faire savoir que nous faisons, c'est important, premièrement. Deuxièmement, il faut aller, c'est un métier où il faut aller à la rencontre du public pour créer une communauté autour des personnages et autour de l'œuvre. Et troisièmement, les copains auteurs aussi, hein, il faut le dire, hein, parce qu'on est une communauté, on n'est pas des concurrents les uns vis-à-vis des autres, on est des copains, je vous assure que ça se passe bien. Enfin, moi, je vous parle de ce que je sais chez Kern, ça se passe très bien. Du coup, on prend plaisir à se retrouver, à parler de ce qu'on fait, voilà, de nos méthodes, des bonnes idées, on partage les bonnes idées des uns et des autres. C'est très convivial, c'est communicatif, en fait. Voilà, globalement.
Merci beaucoup.
Non, merci à vous.
De répondre. Un petit mot pour terminer.
Sans les lecteurs, on n'est rien. Voilà, je vais être court. Écrire, c'est bien, mais si vous n'êtes pas lu, c'est compliqué. Donc, sans les lecteurs, on n'est rien. C'est une des raisons pour lesquelles il faut aller les voir et leur expliquer ce que nous faisons.
Oui, il y a une volonté de communiquer avec eux.
Ah, mais alors, au-delà de ça, lorsque les lecteurs, par exemple, achètent un livre, je leur demande je leur laisse une carte de visite avec les adresses Facebook, Instagram, etc., et même une adresse mail pour pouvoir communiquer ensuite. Souvent, ces gens sont acceptés en amis, et certains sont devenus des amis, mais des vrais amis dans la vie. Certains même nous suivent dans les salons. Je vous dis, c'est une communauté, en fait. Le but est de créer une communauté autour des personnages, des thèmes, du livre, de la maison d'édition, des auteurs, etc.
Merci beaucoup.
Mais merci à vous.
Nous, on se retrouve avec un nouvel auteur. Nicole Dedeba, la descendante du soldat fusillé, dont Patrick Lassob parle dans son livre Soldat Frédéric Julien Dedeba. Bonjour Nicole.
Bonjour.
Alors du coup, est-ce que vous pouvez me expliquer un petit peu comment il est arrivé ce livre sur les débits?
Un jour, je reçois un coup de fil de Patrick Lassob, qui avait été maire de Saint-Lys, mon village natal. Il me passe un coup de fil et il me dit « Je vais écrire sur ton grand-oncle, le frère de mon grand-père. Je suis stupéfaite que Patrick, n'étant plus maire de Saint-Lys, ait envie d'écrire cette histoire. » Voilà. On se rencontre et de là, je m'aperçois qu'il a fait un vrai travail d'investigation, une vraie enquête administrative, policière, une enquête, comme on enquêterait dans un commissariat de police, pour savoir ce qui était arrivé à Frédéric Dedeba. Et en fait, il a été approché par un des salariés de la mairie de Saint-Lys, qui avait une fonction de documentaliste, et qui avait trouvé des éléments d'information sur un ancien maire en 1920 de Saint-Lys, Joseph Boisse, qui était un compagnon du devoir, maire, compagnon du devoir. Donc c'est une démarche professionnelle, une démarche de vie, démarche philosophique d'être compagnon du devoir, qui, lorsqu'il a été maire, a réhabilité Frédéric Dedeba, tué par l'armée française, en inscrivant au milieu du monument aux morts, dans les années 20 après-guerre, en inscrivant Frédéric au milieu, au centre de l'inscription du monument aux morts, ce qui est déjà en soi une démarche très insolite. Et il a bravé les interdictions du préfet, de l'état-major, qui ne voulait plus reconnaître les soldats qui ont été fusillés après conseil de guerre.
Et quel a été comment ça a mis de temps à écrire ce livre?
Il fallait d'abord qu'il recueille les informations de l'armée, les fiches, enfin les archives à l'époque en 2014 étaient en train de s'ouvrir. Il a été aidé par le directeur, le général Bach, qui dirigeait les archives militaires. Et ce général était très ouvert et pas du tout englué dans cette No Man's Land militaire, et donc il a qui lui a permis d'avoir accès à des informations. À partir de là, les archives ont été ouvertes et Patrick est tombé sur tout le pédigré, toutes les informations concernant le soldat des débats. Et donc, il a pu retracer toute la trajectoire qui a mené Frédéric à l'exécution.
Et où est-ce que vous avez fait pour, comment est-ce que vous avez fait pour obtenir ces informations du coup, qui vous ont permis, avec Patrick Lassop, d'écrire ce livre ?
Ah ben, les archives de l'armée possèdent, ont ouvert leurs archives, c'est là. C'est que Patrick a été à Vincennes, aux archives. Il s'est déplacé, il a fait un travail d'enquête, mais auprès des armées, puisque de toute façon, il n'y avait plus moyen d'avoir des témoignages directs.
Il a été difficile, cette enquête, elle a été difficile.
Elle a été longue, il a fallu qu'il consulte des quantités importantes de documents, qu'il les recoupe, qu'il comprenne ce qui s'est passé, mais en fait... Les événements, le procès reprend les événements qui ont mené à l'exécution de Frédéric.
D'accord.
Donc ça a dû prendre, pour répondre précisément à votre question, ça a pris, je pense, un an et demi, deux ans.
Un an et demi, deux ans. Alors vous êtes édité au Latitude Sud comme maison d'édition.
C'est Cairn.
Est-ce que ça a été difficile de trouver une maison d'édition?
Non, mais Patrick Lassop s'est occupé de tout.
D'accord.
Et il avait déjà des contacts avec Cairn. Il avait fait éditer son voyage à Compostelle. Donc Patrick est quelqu'un qui a beaucoup de réseaux et donc qui n'est pas un auteur pléthorique, mais qui avait un réseau. Et donc ça n'a pas été compliqué de trouver l'éditeur. Patrick a tout fait, y compris trouver la peinture de la page de garde, etc., etc., et aller voir l'éditeur.
Alors la peinture, elle vient de qui, vous savez ?
Là ?
La peinture.
Alors, la peinture, elle vient d'une femme peintre à Saint-Lys, qui est décédée cette année-là, qui était une femme peintre amateur à Saint-Lys, qui a fait cette peinture sur commande.
D'accord. Alors aujourd'hui, pourquoi est-ce que vous avez accepté de témoigner avec justement Patrick ?
Je vous le disais tout à l'heure, je savais que mon grand-oncle avait été fusillé. Je pensais que c'était un fusillé pour l'exemple. Je savais que mon grand-oncle et son frère, mon grand-père, étaient entre Saint-Lys et Paris dans des mouvements pacifistes. Donc je pensais bêtement, sans savoir, qu'il avait été fusillé un peu pour avoir appartenu à un mouvement pacifiste. La réalité est tout autre, c'est beaucoup plus brutal, c'est beaucoup plus cynique, c'est un refus d'obéissance, c'est un pétage de plomb sur un front après une offensive. Il s'est retrouvé mitraillé avec le bruit et la fureur dans la tête, aucun vivant autour de lui. Il est parti dans la campagne, il a erré et il a décidé de rejoindre sa famille. Donc on peut considérer que c'est une trahison, une désertion au sens stricto militaire. Au sens humain, c'est un autre
autre chose. Au sens humain, c'est plus peut-être un besoin de...
J'ai un besoin d'échapper, de continuer à rêver, une structure mentale plus fragile qui n'a pas supporté cette... Mais qui aurait supporté Il y en a d'autres qui ont supporté. Mon grand-père maternel a été décoré. Mon grand-père, le frère de Frédéric, a fait la guerre, il était taxi. Il a eu une attitude héroïque, mais... ils avaient peut-être des structures mentales qui les a mieux préparés à affronter l'horreur. Frédéric s'est retrouvé isolé et n'a pas supporté, quoi. On peut pas. C'est une trajectoire humaine, c'est une trajectoire. Il y en a eu des tas d'autres. Il y a près de 600 soldats qui ont été tués après un conseil de guerre, essentiellement en charge, sans trop de droits de défense du soldat. Et c'est 600 aujourd'hui, il y a un groupe de députés qui demande à ce qu'il soit réhabilité. Moi, pourquoi pas, mais je crois que l'essentiel n'est plus là. L'essentiel, c'est de rappeler pourquoi Jaurès avait raison pour ne pas aller à cette guerre. L'essentiel, c'est de se souvenir que la guerre est la plus mauvaise des solutions, mais aujourd'hui, dans l'état actuel du monde, c'est prêcher dans le désert. Moi, je suis contente de... Enfin, je suis très satisfaite, comme je vous le disais tout à l'heure, de connaître cette histoire parce qu'elle elle humanise complètement ce qu'étaient ces soldats. Elle nous remet le présent à l'endroit. On sait d'où on vient, on sait ce qui s'est passé. Deux frères, mon grand-père héroïque, décoré, communiste par ailleurs, après la guerre, et lui, son autre frère, supportant pas l'offensive, déboussolé par la violence des armes, est devenu, oui, déserteur si on veut, mais pas tout à fait déserteur quand même dans ma tête, quoi. Voilà, c'est une histoire qui doit se transmettre. Et j'ai eu envie, alors ce sont des envies que l'on a en général quand on devient un peu plus vieux. Donc on n'est pas si curieux quand on est jeune, mais vous, je pense que ce n'est pas votre cas. Il faut être curieux de sa famille, savoir ce qui s'est passé pour savoir où on va. Enfin, c'est classique. Voilà. Mais ça restaure quand même, des choses dans la famille.
Il y a cette idée que l'histoire se réécrit sans cesse, finalement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure.
Oui, la mémoire ne sert pas à grand-chose.
Mais hélas,
elle ne protège pas des conneries à venir. Mais bon, voilà, c'est une histoire. C'est bien, à un moment donné, de faire le récit à travers une trajectoire individuelle.
Alors, une petite dernière question pour terminer. Quel est votre intérêt, vous, à participer à des salons comme celui-là? Est-ce que c'est le premier salon littéraire que vous faites?
Mais complètement. Moi, je ne suis pas auteur. Je suis amie de Patrick Lassub. Le livre est important. Ça aussi, c'est quelque chose qui, depuis une quinzaine d'années, m'habite. Le livre, la transmission, c'est important parce que les écrits... permettent le dialogue, permettent la polémique aussi, pourquoi pas, permettent aussi de transmettre quelque chose qui reste. Les réseaux sociaux aujourd'hui ne peuvent plus remplacer le livre parce qu'il n'y a pas... Puis prendre un livre, écrire un livre, c'est prendre le temps, c'est prendre le recul, c'est se mettre à distance. Donc c'est... Et puis c'est matériellement, c'est du matériel un livre. Je crois encore un peu au matériel, voilà. Donc je participe un peu par hasard à cet événement, comme j'ai participé avec Patrick au Salon du Livre de Saint-Lys il y a 8 jours. Mais c'est parce que nous faisons partie aujourd'hui d'un groupe d'historiens amateurs à Saint-Lys et que finalement, ayant participé à des écrits, ben, rencontrer les gens, c'est un intérêt nouveau pour moi, mais un intérêt intellectuel, personnel, important.
D'accord. Alors, merci beaucoup, Nicole, d'avoir répondu à mes questions. Est-ce que vous voulez dire un dernier mot pour terminer ?
Continuons à lire, continuons à écrire, y compris ceux qui ne sont pas des auteurs professionnels, et continuons à transmettre.
Ah, c'est super, super, une super belle manière de terminer. Merci beaucoup. Et nous, on se retrouve avec un nouvel auteur. Avec Yves Carchon qui vient nous parler de son dernier livre, Deborah Worth. Bonjour Yves.
Bonjour.
Aujourd'hui que j'interroge en tant qu'auteur. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce livre édité à aux éditions Kern?
Alors c'est un roman policier, c'est un polar comme on dit, qui se situe dans la montagne noire au nord de Carcassonne. Nous sommes dans un huis clos entre deux personnages, une star de cinéma sur le retour, qui a été kidnappé par un gars, et donc le lecteur, la lectrice va découvrir pourquoi, le pourquoi du comment, les choses en sont arrivées là. Voilà. En sachant qu'il y a un enquêteur parallèlement qui va progressivement remonter jusqu'à la maison. Mon enquêteur est en Fragonie, donc un privé. Donc on est alternativement dans ce huis clos, mais aussi on suit l'évolution de l'enquête de Fragonard.
Alors, combien de temps ça vous a pris d'écrire ce livre ?
Alors, en moyenne, un livre me prend un an. Hein, c'est-à-dire qu'il y a généralement un temps d'incubation, si je peux dire, le moment où je vais repérer souvent les lieux où vont se passer le... Souvent, c'est le site qui va être déterminant. Là, en l'occurrence, c'est une maison que j'ai réellement rencontrée sous la neige quand je faisais une randonnée dans la montagne noire. Et là, je suis tombé sur cette maison. Et pour moi, ça a été une évidence que quelque chose devait arriver et que c'était le début d'un polar. Voilà. Mais généralement, c'est un an de travail.
Du coup, votre source d'inspiration, ça a été cette maison.
Exactement. C'est souvent le site.
Vous êtes édité aux éditions Kern. Est-ce qu'il y a une difficulté à trouver une maison d'édition aujourd'hui ? Est-ce que vous avez prouvé cette difficulté-là ?
Non, pas franchement. Alors, c'est vrai que j'écris depuis un certain temps, que j'ai rencontré pas mal d'éditeurs, mais que Kern a été celui qui a accepté donc mes premiers polars. Et ça s'est fait assez facilement, puisque dès que j'ai envoyé mon premier polar, il a été accepté, sachant que c'était mon premier étant Riquet m'a tué.
Ah oui. Et alors, voilà, vous participez au Salon du Livre aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un intérêt pour vous à participer à des salons du livre comme celui-là ?
Est-ce qu'il y a
un intérêt ?
Oui. L'intérêt, c'est déjà de rencontrer ses lecteurs, lectrices. Là, par exemple, ce matin, j'ai rencontré un couple qui suit tout ce que j'écris, notamment. Donc, ils étaient là. Voilà, donc on a pu parler, etc. Notamment de mon dernier, là, de Bora Wars, qu'ils avaient acheté dans un autre salon. Et là, il y a eu un échange entre nous. Et ça, c'est l'intérêt premier. C'est l'écrivain est quelqu'un de solitaire qui est derrière son écran ou sa page blanche. Et ce n'est que lorsque son bouquin sort qu'il peut l'accompagner, un peu comme un enfant. On l'accompagne et donc on le présente. Et à partir de là, ces salons sont importants. En plus, on rencontre évidemment d'autres collègues, des auteurs qu'on connaît. Voilà. Donc, c'est toujours très convivial.
Merci en tout cas d'avoir accepté de répondre à mes questions. Un petit dernier mot pour terminer ?
Bah écoutez, je suis ravi d'être ici dans ce salon. Je crois que c'est la première année. Voilà, il y a du monde, les gens arrivent, donc tout est bien. Et ma foi, j'espère que de bon avoir mon dernier polar saura plaire à mon lectorat.
Il arrive quand, vous savez ?
Il est là.
Ah, Déborah. Et il y en a un prochain qui arrive
en... Il y en a un qui est en préparation.
Ah,
mais je n'en dirai pas plus.
Il faut laisser la surprise.
Voilà.
Merci beaucoup en tout cas, Yves.
Merci à vous.
Et nous, on se retrouve avec un nouvel auteur. Qui vient nous parler de son premier roman « Vie et mort » de Marco Mariotti. Bonjour.
Bonjour.
Alors, est-ce que vous pourriez nous présenter un peu votre livre en deux mots ou trois ?
Un peu plus de trois mots quand même. Donc, c'est un roman qui se passe à Toulouse en 2013, fictionnel, où on commémore la disparition de trois jeunes qui auraient été tués. Mais le problème, c'est qu'on n'a plus les corps. Et au bout de 10 ans, on commémore leur disparition et leur mort officielle, administrative. Il se trouve que leur meurtrier présumé est également disparu. Et le soir de la commémoration de leur disparition, sur les réseaux sociaux, comme une traînée de poudre, on apprend que le tueur reviendrait à Toulouse. Donc j'ai deux enquêteurs, une journaliste et le garde du corps d'un homme politique qui avait bénéficié de l'affaire à l'époque, qui vont au départ séparément se mettre en quête de ce fameux personnage, ce fameux Marco Mariotti qui fait le titre de l'heure. Et au fur et à mesure des chapitres, on s'aperçoit que tout le monde n'est pas nécessairement celui qui prétend être, jusqu'au twist final qui réserve une grosse surprise au lecteur. Et d'après les retours, la surprise est bien gardée. Voilà, tout simplement.
Et alors, vous disiez tout à l'heure que vous avez mis en place un système de retrouvement où vous entrecoupez vos chapitres de vos extraits, de la dépêche.
Exactement. C'est-à-dire qu'on est dans une société où on est bombardé d'informations. Presse classique, radio, télévision, réseaux sociaux. Voilà. Donc, ça me semblait intéressant de reproduire cette atmosphère-là, cette atmosphère aussi un peu d'hystérisation parfois, et de faire vivre, je veux dire, en temps réel au lecteur ce qui se dirait dans les médias de ce qu'il vient de lire, pour voir les distorsions et en même temps, parfois, apprendre des choses supplémentaires par rapport à ce qu'il vient de lire. Voilà. Donc, c'est une petite, comme ça, une petite gymnastique qu'on a au fur et à mesure de l'ouvrage, hein, auquel on se fait très très bien et qui apporte un petit plus, une petite réalité augmentée, comme on dit maintenant, sur l'histoire, sur l'intrigue principale.
Combien de temps ça vous a pris d'écrire ce livre ?
Alors, celui-là, il a pris 3 ans. Je suis assez long parce qu'en fait, je travaille par esquisse. J'ai ma première version, qui est une patte de départ. Et je retravaille. Et je laisse reposer au moins 6 mois avant d'attaquer la version finale. Donc, c'est pour ça que ça prend un peu de temps. Voilà. Le prochain, qui sort en février, La part de l'ogre. C'est un polar historique qui se passe en 1942. Là, il m'a pris 3 ans pour les recherches historiques. Parce que tout est au plus proche de la réalité. Dans mon roman, quand un personnage va voir un film, c'est le bon cinéma, la bonne séance et le bon film. Voilà. Ouais. Donc c'est très exigeant et c'est passionnant en même temps de faire les recherches et de les faire partager au lecteur.
Oui, il y a tout un travail de recherche qui a été mené pour ce roman.
Exactement.
Et, mis à part les recherches, quelles ont été vos sources d'inspiration ?
Pour celui-ci ou le prochain ?
Celui-ci.
Pour celui-ci, pour Vivement Manquant Mariotti, disons que il y a un aspect, il y a une affaire un petit peu politique, mais c'est un leader d'un parti d'extrême droite, donc il y a cette atmosphère-là. Il y a les sujets de société par rapport à la pédophilie, malheureusement, on est encore dans ce genre de problématiques. On n'a sans doute pas fini avec ça. Et après, les sources, elles sont aussi littéraires. Les gens que j'admire, que je lis. Bien sûr, les grands du thriller français. Mais également, le classique pour moi, Alexandre Dumas. Il y a un gros clin d'œil à Alexandre Dumas dans le livre. James Ellroy, qui est peut-être celui qui m'a le plus marqué au niveau du polar. Et c'est déjà pas mal au niveau d'inspiration.
Et pour le prochain, du coup, quelles sont vos sources d'inspiration ?
Source d'inspiration, la source d'inspiration, la première, c'est l'histoire en elle-même. C'est l'histoire avec un grand H. C'est une période formidable pour un romancier, pas formidable pour ceux qui l'ont vécu, malheureusement, bien entendu. Formidable parce qu'elle est pleine d'histoires personnelles, de situations qu'on ne pourrait pas inventer et qui sont des bases géniales. Voilà. Et une époque où on ne savait pas qui est qui, réellement, qui faisait quoi pour qui. Donc, pour mettre en place un polar, c'est une enquête, c'est génial pour mettre des faux semblants. Au niveau littéraire, là, c'est plus mon admiration pour l'auteur Philippe Kerr, qui est quand même pour moi un des maîtres du polar historique, qui est disparu malheureusement trop tôt. J'aurais aimé qu'il en ait écrit d'autres. Voilà. Alors, je ne sais pas, bien entendu, d'écrire comme lui. Je ne pourrais pas le faire. Mais en tout cas, conserver à la fois cette précision et ce côté sarcastique qu'il instillait dans ses histoires. Voilà.
Est-ce que vous pensez qu'il y a une difficulté à trouver des maisons d'édition aujourd'hui ?
Alors, finalement, il y a toujours une difficulté à trouver une maison d'édition parce que statistiquement, il y a 5%, 3%, je ne sais plus, des gens qui envoient un manuscrit qui sont édités. Cela s'est accru du fait que pendant le confinement, beaucoup de personnes ont écrit et donc ont envoyé leurs manuscrits. Tenter leur chance, c'est légitime. Mais forcément, ça a embouteillé les comités de lecture. Après, j'ai eu la chance de pouvoir avoir trouvé une maison avant le confinement.
Ah,
voilà.
Ça, c'est Et c'est la bonne chance.
Voilà, déjà c'est pas mal. Voilà, j'ai pu quand même avoir un pied dans la place, si j'ose dire, avant cet embouteillage. Et avec les gens de Kern, donc, ça se passe très très bien. Et ouais, là, on prépare de pied ferme la mise en place du prochain. Voilà. Mais c'est sûr que pour les gens qui veulent se faire éditer actuellement, c'est très compliqué.
C'est très compliqué.
Très très compliqué, ça c'est sûr. Voilà.
Alors, pour vous, quel est l'intérêt pour vous de participer à un salon du livre comme celui-ci aujourd'hui ?
Alors, les salons du livre, bien sûr, c'est un moyen de rencontrer les lecteurs, de rencontrer les acteurs du livre, mais c'est aussi un formidable moyen de voir ou de revoir d'autres auteurs, puisque finalement, c'est une activité très solitaire. Et les salons, c'est un moment convivial, surtout dans le polar, c'est un milieu qui est très, très convivial. Et comme ça, bon, on peut se faire des amis, on peut s'échanger des tuyaux sur les signatures, les salons, là où il faut aller, là où il ne faut pas aller, voilà, ce genre de choses. Donc c'est ça l'intérêt. L'idée, c'est quand même de pouvoir, c'est un plaisir, parler de son travail, même s'il y a 3 personnes, c'est pas grave. Voilà.
Merci en tout cas, Régis.
Avec grand plaisir.
De répondre aux questions. Un petit mot
Merci
pour
à
la
vous.
Fin
Un petit mot. Je dirais simplement à vos auditeurs de prendre plaisir à la lecture, quel que soit le genre, quel que soit le style. C'est toujours un moment, une richesse de pouvoir lire.
Merci beaucoup.
Avec plaisir.
C'était Tiffaine Lemen pour Ma Préférence. J'espère que ces quelques auteurs vous auront donné envie de faire de nouvelles lectures. Vous pourrez retrouver cette émission sur notre site Esprit Occitanie ainsi que sur notre chaîne YouTube. Merci à tous de votre écoute et à très bientôt.